Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
L'Assemblée de Jérusalem à l'origine des conciles. Tout au long des émissions de l'année dernière, nous avons réfléchi sur les deux premiers conciles œcuméniques, celui de Nicée en 325 et celui de Constantinople en 381. Cette année, nous allons continuer notre parcours avec les autres grands conciles de l'Église indivise, c'est-à-dire antérieurs au schisme entre l'Orient et l'Occident. Mais tout d'abord, je vous propose un petit flashback, comme on dit au cinéma, sur l'origine des conciles. Un concile est, dans notre langage actuel, une assemblée d'évêques qui ne se réunit pas en permanence, mais qui est en général convoquée pour résoudre des difficultés particulières. L'autorité qui convoque un concile n'est pas toujours le pape. Dans l'histoire de l'Église, se sont tenus de nombreux conciles locaux, suscités à l'initiative d'évêques d'une région ou d'un pays. Ces conciles locaux, provinciaux ou régionaux n'ont pas la même autorité que les conciles généraux, ceux qu'on a pris l'habitude d'appeler conciles œcuméniques. Un concile œcuménique se prononce avec le maximum d'autorité sur des points de la vie chrétienne et surtout de la foi. En termes techniques, il peut énoncer des définitions dogmatiques définitives. On a parfois soutenu que le premier concile de l'histoire était l'Assemblée de Jérusalem, qui s'est tenue autour de l'an 50 et dont le déroulement nous est rapporté au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Relisons ce texte au chapitre 15, versets 1 à 29, en prêtant attention au nom de ceux qui agissent ou qui prennent la parole. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. » C'est dans le prophète Amos au chapitre 9. « Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans la synagogue, on en fait la lecture chaque sabbat. » Alors, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient en Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Et voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. « Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. » On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre, à sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Le point de départ de cette étape très importante de la vie de la jeune Église chrétienne, en acte 15, est donc une dissension entre évangélisateurs. Les uns considérant que pour devenir chrétien, il faut d'abord observer les pratiques du judaïsme, les autres considérant au contraire que c'est superflu et même que c'est incompatible avec la liberté chrétienne. Cette dissension est en rapport avec l'extension de la mission qui ne se tourne plus désormais vers les seuls juifs, mais vers tous ceux, juifs ou païens, que l'Esprit-Saint attire au Christ. Géographiquement, elle oppose l'Église de Jérusalem, réunie autour de Jacques et composée presque uniquement de juifs, et l'Église d'Antioche, où le nom de chrétien donné aux convertis a été inventé, en acte 11. De ce point de vue, la décision de Paul et Barnabé de monter à Jérusalem revient un peu, humainement parlant, à se jeter dans la gueule du loup, puisque Jérusalem est le fief des chrétiens issus du judaïsme. Mais c'est aussi la ville des apôtres et des anciens, celle d'où est partie toute l'évangélisation, et il n'est pas possible de trancher des questions importantes en dehors de ce noyau apostolique qui est revêtu de l'autorité maximale. On pourrait presque dire que le rôle que Rome jouera plus tard, c'est Jérusalem qui le joue à cette époque. Donc, Paul et Barnabé se mettent en route pour Jérusalem. Et ce qui devait arriver, arrive. À peine y sont-ils parvenus que les pharisiens convertis au Christ répètent ce qui est pour eux une évidence, impossible de devenir chrétien si on n'est pas d'abord juif, et être juif, c'est observer tous les commandements sans exception. Le débat se cristallise autour de la circoncision qui est la marque charnelle de l'appartenance au peuple choisi. Si Paul avait tout de suite pris la parole, il n'aurait certainement rien obtenu. Mais un coup de théâtre se produit, de façon très inattendue, c'est Pierre qui, après une longue discussion, nous dit le texte, va faire basculer la décision en faveur des païens. Il le fait en vertu de l'autorité dont Jésus l'a investi à la tête de l'Église, mais surtout à cause d'un grand bouleversement spirituel que lui-même a vécu au chapitre 10, avec la conversion du centurion Corneille. On peut dire que l'Esprit-Saint lui-même lui a forcé la main. En effet, cette conversion de Corneille a été précédée d'événements extraordinaires. Tout d'abord, Corneille, qui est un Romain sympathisant du judaïsme, est visité par un ange de Dieu qui lui annonce que Dieu s'est souvenu de lui et qu'il doit aller chercher à Joppé, aujourd'hui Jaffa, un certain Simon surnommé Pierre. L'ange ne lui en dit pas plus, mais Corneille, évidemment très troublé, obéit à son ordre et envoie des gens de sa maison chercher Pierre à Joppé. Mais du côté de Pierre, il s'est passé des choses tout aussi troublantes. Pierre était monté prier sur la terrasse de la maison où il habite. Il a eu faim et il a demandé qu'on lui prépare à manger. Mais voilà qu'il tombe en extase et qu'une voix venue du ciel lui propose de manger des animaux impurs, c'est-à-dire interdits par les prescriptions alimentaires des Juifs. Pierre évidemment se récrie, pas question de manger ce genre de nourriture. Mais la voix lui répond : « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le déclare pas impur. C'est à ce moment-là que les envoyés de Corneille arrivent à la maison de Pierre et demandent à le voir. L'Esprit Saint souffle à Pierre que ce sont eux qui lui révéleront le sens de sa vision. Et Pierre les suit jusque chez Corneille, à Césarée. Il y trouve Corneille et tout son entourage familial, et il commence alors à comprendre ce que signifiait sa vision. Comme il le dit lui-même, « Je constate que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais en toute nation il tient pour agréable celui qui le craint et pratique la justice. » Ainsi, conclut-il, « quiconque croit au Christ recevra par son nom le pardon des péchés. » Et c'est à ce moment que l'Esprit-Saint fait, si on peut dire, un coup de force conclusif. Il tombe sur ceux qui sont là et qui écoutent la parole de Pierre. Et ils se mettent à parler en langue, exactement comme les apôtres au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi on appelle cet événement décisif la Pentecôte des païens. Pierre, alors, se rend à l'évidence et il ordonne que tous reçoivent le baptême. C'est une grande joie pour Corneille qui le prie de rester quelques jours chez lui. On imagine que Pierre a profité de ce séjour pour catéchiser Corneille et les gens de sa maison. Mais à son retour à Jérusalem, sa conduite commence à lui valoir des ennuis. Il est obligé de se justifier d'être allé chez un païen et d'avoir séjourné chez lui. Mais il déclare « Si Dieu a accordé aux païens le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu ?» Pendant ce temps, dans une autre région de l'Empire, aujourd'hui située au sud-est de la Turquie, un autre événement de grande importance s'est produit. Paul et Barnabé ont été les témoins émerveillés de la naissance d'une forte communauté chrétienne en plein milieu païen. Encore un coup de force de l'Esprit-Saint, dont il va bien falloir tirer les leçons. Mais il est à craindre que tout cela prépare un conflit majeur entre chrétiens issus du judaïsme et chrétiens issus du paganisme. Tel est le contexte de la réunion de l'Assemblée de Jérusalem. Ne parlons pas trop vite de concile. Nous avons vu qu'on y trouve Pierre, Jacques et Jean, que saint Paul appelle dans l'Épître aux Galates ses notables, ses colonnes. Dans ce récit plus tardif, Paul expose qu'à l'issue de l'Assemblée de Jérusalem, on s'est réparti les tâches. Pierre, Jacques et Jean s'occuperaient d'évangéliser les Juifs, et Paul, avec ses collaborateurs, irait vers les païens. Mais revenons à l'intervention de Pierre à l'Assemblée. Tout indique qu'elle a surpris tout le monde. Et nous avons vu qu'elle résultait d'un événement qui avait complètement changé sa vision des choses, la conversion du centurion Corneille. Mais l'apôtre Jacques va venir à la rescousse, en citant un passage du prophète Amos qui dit en substance que Dieu va restaurer Israël après l'exil pour que les nations, en voyant cela, le recherchent. Alors, dit le texte, le nom divin sera invoqué sur les nations païennes. C'est le seul texte de l'Ancien Testament qui affirme cela. Et c'est finalement cette intervention de Jacques qui dirime le débat. Au bout du compte, la seule obligation qui va s'imposer aux nouveaux chrétiens, c'est de rompre sans ambiguïté avec les pratiques cultuelles des païens. C'est donc une prescription négative et pas du tout une injonction à se convertir au judaïsme. Ce qui désormais accomplit la circoncision dans l'Église chrétienne, c'est le baptême qui fait entrer dans le nouveau peuple de Dieu.